Marie Webb, Le précieux fléau, livre 2, chapitre 8, l'apparition de Vénus. Les personnes au principe austère devront sauter ce passage sur l'apparition de Vénus. Aussi vais-je le rendre le plus court possible. En me représentant la chose le soir venu, il m'a paru terrible de devoir m'exhiber entièrement nu. Parce que, bien que je savais que Mademoiselle d'Arabella et d'autres grandes dames retiraient le haut de leur robe et se montraient ainsi en soirée sans en éprouver aucune honte, nous autres femmes de condition plus modeste, nous étions plus retenues. J'étais toute tremblante, tandis que je me rendais là-bas, par l'allée du jardin, étant passée par la porte du sous-sol pour ne pas être vue. Et ce n'est que par pitié pour la pauvre Jensis que je n'ai pas renoncé à cette entreprise. On entendait Begindy se démener en haut pour ouvrir la trappe et tout préparer. Je me disais que ce vieil homme était bien stupide pour penser que quelqu'un pût croire à ses pauvres artifices. Puis nous entendîmes le cheval du jeune monsieur Camperdine, et il y eut un frottement de pas au-dessus, et Begindy tira sur la corde pour prévenir que tout était prêt. Il est souvent plus facile de mourir par amour que de se ridiculiser par amour. C'est à cela que je pensais quand je fus tirée en haut, dans une pièce sombre, pleine d'une fumée qui me prenait à la gorge, les mains étendues pour ne pas me heurter contre les bords de la trappe, et ne sachant si je devais rire de la bêtise de tout ceci, ou pleurer de chagrin, de jouer ce rôle qui me mortifiait. Car j'étais là, prétendant être la plus belle femme qui ait jamais existé au monde. Une déesse de surcroît. Alors que, comme vous le savez, j'étais maudite. Dans la pièce, tout était flou. Je distinguais à peine une silhouette près du mur opposé. Begindy était en train de chanter des paroles étranges dans la cuisine, tandis qu'à l'extérieur, le cheval du jeune homme ne faisait que piétiner et secouer sa bride. Comme je montais hors de la trappe, suspendu là dans la lumière rose, le jeune châtelain se pencha en avant sur sa chaise et tendit ses mains, tel un enfant devant une pâtisserie. Mais je savais qu'il avait fait le serment de ne pas bouger de sa chaise. Je me disais que ce devait être bien singulier de devoir traverser la vie avec des hommes, tendant les mains de côté d'autre, et de toujours se sentir devant leurs yeux affamés comme un joli gâteau dans une vitrine. Tout à coup, j'entendis un mouvement de l'autre côté de la pièce, et me tournant de ce côté, je faillis crier. Car Kester Woodseeves se trouvait assis là. Le sort a-t-il jamais joué pareil tour? Se trouvait ici, le seul homme, parmi ceux du monde entier, de qui je devais me cacher, depuis que je l'aimais déjà si chèrement, parce que je ne voulais pas le blesser par mon malheur. Et il était là, si près que deux enjambées eussent pu me mettre à sa portée. Il se penchait en avant comme le jeune châtelain, et il avait tendu les mains, puis les avait retirées, avec un soupir. Et je savais maintenant qu'en son fort intérieur, il était troublé par le désir. Il me vint alors une grande joie de ce que ce fut moi et personne d'autre qui lui ait fait tendre les mains. Et si de cet endroit il ne pouvait voir mon infortune, en revanche, il pouvait voir la blancheur lumineuse de mon corps qui était comme celle de toute autre femme. Depuis lors, je me suis souvent demandé s'il aurait eu le même trouble devant Jensis, au lieu de moi, suspendu là, crucifié dans sa nudité. N'y avait-il eu qu'une question de chair, comme c'était le cas pour le jeune châtelain, ou est-ce que, dès ce moment-là déjà, mon âme, qui était sœur de la sienne, l'avait-elle attirée? Et puis, son âme, soutenant son cœur, avait magnifié son amour. Parce que je pense que c'est l'esprit qui anime le corps, il le transfigure, le voile quelque peu pour le rendre plus beau qu'il n'est en réalité. Car qu'est-ce que la chair ? On peut voir de la chair seule et ne rien sentir que du dégoût. On peut en voir chez le boucher, coupé en morceaux, ou dans le ruisseau, à l'état d'ivresse, ou dans le cercueil, inerte et morte. Le monde est plein de chair, comme les rayonnages du vendeur de chandelles sont pleins de lanternes de cornes au début de l'hiver. Mais ce n'est que quand l'on prend sa lanterne à la maison et qu'on l'allume, qu'on en éprouve du réconfort. Et j'ai souvent vu, là où Félena allait danser, des femmes aux jolies joues rondes et pourvues de belles poitrines, mais qui manquaient d'âme, pour qu'on pût rire ou pleurer avec elles. Et ce n'était pas elles qui attiraient les âmes. Celles, au contraire, qui les charmaient, par dizaines et par centaines, comme la foule est attirée par la lumière de l'église quand on célèbre les Pâques, ne faisaient point trop attention à leur corps. Cette chose est bien surprenante, comme les choses vraies le sont souvent, mais tout de même pas autant que l'attirance de cet homme pour une femme blessée et maudite, une femme à qui l'on avait dit « tu n'auras pas d'amoureux ». J'aurais pu en avoir deux d'amoureux cette nuit, si j'avais voulu. Et alors que je voyais les épaules du châtelain se pencher en avant sous le poids du désir, je sus pour la première fois que, quel que pouvait être mon visage, mon corps, lui, ne manquait pas de beauté. Des pieds aux épaules, j'étais comme n'importe quelle femme. Sous la lumière rouge, mon corps avait l'aspect satiné des pétales de rose. Et mes formes étaient celles que l'on prête aux naïades, souples et séduisantes. Jouer ce jeu stupide devant un étranger ne m'aurait pas préoccupé, ni tant ennuyé. Mais maintenant, j'étais rouge et des pieds à la tête, et en même temps froide comme un glaçon. Chaque seconde me paraissait une heure, et j'étais toute honteuse, comme si je me prostituais. En même temps, je me réjouissais d'avoir offert mon corps à la vue de celui qui était le maître de la demeure que j'étais devenue pour lui, dès lors et pour jamais. Je tirais un peu sur la mousseline pour pouvoir, de côté, jeter un regard sur ce prodige. Car c'en était vraiment un de prodige à mes yeux, à ce moment-là et toujours depuis. Non pour son apparence, non pour ce qu'il aurait pu avoir fait, mais pour la puissance silencieuse de ce qu'il était. Cette puissance était rassemblée en lui, aussi immense qu'une haute montagne face au ciel. On ne pouvait ni la mesurer, ni la décrire, mais seulement la ressentir. Au travers de la fumée qui se dissipait, je pouvais le distinguer et son visage reflétait le choc de son amour, car, qu'il m'ait aimé ou non par la suite, il m'aima certainement en cet instant. Il avait l'expression tourmentée que l'on voit chez tous les hommes, entre la montée du désir et son apaisement. Décrire tout cela m'a pris un bon moment, alors que je ne fus dans la pièce que le temps pour Madame Beguidi de compter jusqu'à 60. Beguidi craignait qu'ils ne découvrissent sa supercherie, en les laissant trop longtemps. Il n'imaginait même pas, le pauvre fou, qu'aucun d'eux ne croyait un seul mot de ces histoires. Je me sentais faible, étant encore sous la secousse d'avoir vu Kester Woodsive, quand Beguidi appela de la cuisine. « Bonbon, messieurs, n'ai-je pas gagné mes 5 livres ?»« Oh que si !» dit M. Camperdine, son lourd regard posé sur moi. « Et plus encore !» Beguidi entonna un autre de ses chants stupides pour me signaler que je devais me préparer à descendre. Jamais personne ne fut plus heureux de se retrouver dans une cave que moi quand j'y fus descendu. Je m'habillai aussi vite que je pus, parce qu'on entendait le châtelain argumenter avec Biguindi dans la cuisine. « Quoi encore parler à une apparition ?» disait Biguindi. « Comment pouvez-vous parler avec Dame Vénus, alors qu'elle est morte et partie depuis 1000 ans ?»« Je l'ai ramenée pour vous de la tombe et des portes de la mort pour 5 livres cash, mais je ne peux pas la garder. » »« Elle vient au travers des airs sur un nuage, le temps de compter jusqu'à 60, et puis disparaît, parce que c'est qu'une jolie forme, et qu'elle doit être rentrée à la tombée de la nuit. » Il y eut un grand éclat de rire à cet énoncé, et comme M. Camperdine sortait vers sa monture, il dit en se retournant, « Un de ces jours, je reviendrai voir Vénus, Biguindi. Elle a une silhouette parfaite, parbleu, d'où qu'elle vienne. » Tandis que je rentrais à la maison, sous le filet serré des branches d'hiver qui composaient la charmille, j'avais le cœur ébahi, tout comme le cœur de la jeune mariée, quand, pour la première fois, son amour lève les yeux sur sa beauté. Sauf qu'il s'y mêlait de la honte et une profonde détresse, puisque je n'étais pas cette jeune mariée, et que de plus, j'avais été admirée et désirée par un autre homme, aussi bien que par celui qui était le monde pour moi, quoique je ne l'eusse vu qu'une seule fois auparavant. C'était bizarre de se figurer que quand je vaquerais au ménage, ou que je ferais mes travaux dehors, trimant comme un homme à des travaux d'homme, je me sentirais au tréfond de l'âme la femme du tisserand. Pendant que je laborerais avec Gédéon, retournant la terre gelée, pendant que je nettoierai les étables dans mes vieux vêtements sales, pendant que je distribuerai leur nourriture aux canards et aux volailles dans la basse-cour pleine de boue, ressemblant plus à un homme qu'à une femme, et plutôt même à un épouvantail qu'à un homme. Durant tout ce temps, je serai femme pour lui, demeurant sous la lumière de ses yeux, réchauffée par son sourire, sa bannière déployée sur moi, étant l'amour. Pendant que je foulerai le sillon derrière Gédéon, je serai allongée toute frissonnante dans les bras de mon bien-aimé, un peu défaillante, comme je l'avais été chez Biguindi. Bien que j'aie des mains rugueuses et gercées, le visage rouge et hâlé par le grand air, je me sentirais belle comme une fleur, délicate comme un pétale de fleur, quand je penserai à celui que j'aime. Parce que l'amour est une rosée de mai qui peut transformer la plus noiroute des femmes en une Jancis. Bien sûr, je n'ai eu que l'ombre de tout cela, même l'ombre d'une ombre. Comme quand on voit le reflet d'un nénuphar dans la mare, non pas tranquille, mais agité dans les ondulations de l'eau, si bien que le reflet est déformé et vous échappe en partie. Cependant, même ainsi, le monde en fut pour moi tout renouvelé. Je me demandais ce qui pourrait bien m'arriver d'autre, d'ici que les nénuphars refleurissent à nouveau, couchés sur les bords de la mare, comme de grandes gouttes de cire pâle. Pour l'instant, on n'en voyait que des caricatures, puisque parmi les feuilles gelées s'étalaient des nénuphars de glace. Pourtant, alors que je pensais à Kester Woodsies et à ce qu'il représentait pour moi, j'avais l'impression, ici ou là dans les bois sombres, d'entendre un son et de voir un éclat des prémices du printemps. Il y avait un appel flûté dans la chênaie, un éclaboussement pourpre à la cime des arbres, la clarté jaune d'une renoncule dans le bois à corneilles. Quand je retrouvai le grenier, le printemps était là devant moi, même s'il y faisait si froid que mes doigts pouvaient à peine écrire. J'inscrivis néanmoins sur mon cahier « Premier jour de printemps. Et je le fis de ma plus belle écriture, grande et ornée. Ces paroles me remirent toujours en mémoire ce jour où je vis celui que j'aimais pour la seconde fois et où il me vit pour la première fois. Non seulement il m'avait regardé, mais il l'avait fait avec bonheur et désir. Et même si je savais que c'était parce que la vérité lui était cachée, cependant, j'étais contente du peu que j'avais, comme un oiseau se satisfait l'hiver de venir prendre une miette dans votre main. Alors qu'en pleine saison, il se moquerait de vous du haut de sa branche. Je pris donc ma miette et, tenez-vous bien, ce fut le souper du Seigneur.